Le journal 28 juin 2012. Renaud Candelier, bonjour Renaud.
Bonjour Marc et bonjour à tous. Manuel Valls ne veut pas régulariser plus que Claude Guéant car les conditions économiques et sociales ne le permettent pas. Intervention politique opportune du ministre de l'Intérieur, nous dira Hubert Bertas. La crise sociale est sa réalité dans l'automobile comme ailleurs en Europe. En France, PSA produit trop. Les salariés d'Aulnay vont manifester leur inquiétude. L'Europe saura-t-elle proposer des solutions à cette crise? Le sommet de Bruxelles aujourd'hui et demain pourrait déboucher sur quelques avancées. Mais nous le verrons, l'Allemagne a toujours ses lignes rouges. Et puis à la fin de ce journal, nous irons au Liban à la rencontre de ces réfugiés syriens. Si on ne régularise pas davantage en France, c'est en raison de la crise. Voilà l'argument avancé par Manuel Valls dans une interview accordée au Monde datée d'aujourd'hui. Le ministre de l'Intérieur en charge, comme son prédécesseur de l'immigration, estime qu'il n'y aura pas plus de 30 000 régularisations par an, comme sous le gouvernement Fillon. La droite et l'extrême droite expriment la même perplexité. Le réseau Éducation sans frontières lui fait part de sa déception. Et pour Olivier Besancenot, ça n'est rien de moins que la première grande faute du gouvernement. Manuel Valls s'en est expliqué.
Nous avons pris un certain nombre de décisions pour illustrer cette volonté de lutter contre l'arbitraire. Je pense à la circulaire concernant les étudiants étrangers qui a mis fin à celle prise par Claude Guéant. Je pense aux décisions que nous allons prendre concernant les familles et les enfants en centre de rétention pour préférer l'assignation à résidence. Nous travaillons sur une circulaire qui précise les critères de régularisation, qui soit comprise à la fois pour ceux qui font la demande de papier, qui soit comprise aussi par nos compatriotes. Il faut des règles. S'il y a des régularisations, il y aura aussi des reconduites à la frontière. Et dans la situation économique et sociale que nous connaissons, ces reconduites sont tout à fait logiques, normales, et je crois que chacun peut les comprendre.
Manuel Valls qui a ajouté deux commentaires hier. D'abord, être de gauche, ça n'est pas régulariser tout le monde. Et puis, la politique que j'applique n'est pas celle de Manuel Valls, c'est celle du président de la République et du Premier ministre. Bonjour Hubert Bertas.
Bonjour.
En fait, rien de surprenant dans ces déclarations.
Non, dans cette affaire, tout le monde a raison. L'aile gauche de la gauche et le réseau Éducation sans frontières, car effectivement, le discours de M. Valls est rigoureux. Et M. Valls a également raison à sa manière, car effectivement, son discours n'est pas une surprise. Il est le prolongement exact du programme développé par François Hollande pendant sa campagne. Ce n'est pas M. Hollande qui a parlé de régularisation massive, c'est Nicolas Sarkozy qui l'a accusé de vouloir la faire. Ce fut d'ailleurs l'un des moments les plus chauds du débat qui les a opposés. Il y a donc deux problèmes dans l'interview de M. Valls, deux problèmes très différents, mais qui feront sans doute beaucoup parler. Premièrement, le décalage entre les attentes de la gauche et la réalité de la gestion du pouvoir social-démocrate qui est donc arrivé aux commandes. Ce décalage se lie également dans les premières réactions au programme économique du gouvernement. Et puis il y a un autre aspect, plus personnel, mais la politique est aussi faite par des personnes. Est-ce que Manuel Valls a mis la question de l'immigration au cœur de l'actualité en accord avec le Premier ministre ou de sa propre initiative un jour de sommet européen? On compare souvent, à tort ou à raison, Manuel Valls à Nicolas Sarkozy. L'une des caractéristiques du ministre de l'Intérieur des années 2002 était moins de se distinguer des choix du président d'alors, Jacques Chirac, que de faire mousser la mousse et de tirer la couverture à lui.
Hubert Bertas, pas de régularisation en plus à cause de la crise. En revanche, davantage d'impôts, oui. D'après les Échos, ce matin, le gouvernement veut augmenter plusieurs taxes sur les entreprises et même en créer une contribution exceptionnelle valable uniquement cette année. 4% pris sur les stocks des produits pétroliers qui toucheraient tous les acteurs de la filière, de la raffinerie jusqu'aux distributeurs de carburant. Ambition pour le budget, faire rentrer 500 millions d'euros. Tout cela sera développé la semaine prochaine. Et pendant que François Hollande gère les affaires européennes, nous allons y venir, le gouvernement, lui, doit affronter plusieurs dossiers sociaux. Chez Air France, la CGT annonce qu'elle ne signera pas le plan d'économie 2015. Et cela pourrait contrarier la direction et mener éventuellement à des appels à la grève cet été. Et puis, aujourd'hui, les salariés de PSA, Aulnay, c'est en Seine-Saint-Denis, sont appelés à faire grève et à se rassembler devant le siège à Paris. Le comité automobile tient un comité européen aujourd'hui et il se refuse toujours à garantir l'avenir de cette usine qui compte 3600 salariés. Jean-Marc Chardon.
De crise industrielle en crise financière, PSA ne s'est pas remis de la fin de la prime à la casse. Ce n'est pas le seul constructeur, c'est toute l'industrie automobile qui va mal. Elle ploie sous les surcapacités. De 400 000 véhicules sortis en 2004, on est descendu à 135 000 sur le site d'Aulnay et le mouvement ne semble pas prêt de s'arrêter. Voilà quelque temps, un document interne confidentiel avait fait frémir le personnel. Il envisageait le passage à une seule équipe puis l'arrêt de la production avant 2015. Plan de restructuration aussi démenti, mais un autre plan bien réel d'économie est toujours en discussion. Ce plan a pris du retard. Aujourd'hui, plus possible de reculer. Les surcapacités du marché européen atteignent l'ensemble des marques, à l'exception des constructeurs allemands et encore pas tous. Les usines des autres Européens tournent au ralenti. C'est le cas singulièrement des Italiens, puis de la France. PSA n'y échappe pas. PSA qui serait trop centré sur le marché en Europe, faute de s'être redéployé suffisamment à l'international. Pas d'amélioration en vue. Selon une étude du cabinet international Alix Partners, les usines en Europe vont voir leur activité se réduire encore d'ici la fin de l'année. Dans l'immédiat, c'est bien le site d'Aulnay qui pose question. Combien de temps peut-il encore tenir ?
Combien de temps les 27 tiendront-ils face à la pression des marchés ? Le sommet européen s'ouvre ce soir à Bruxelles au terme d'une semaine marquée, notamment par l'appel à l'aide de l'Espagne et de Chypre. Il faudra donc répondre à l'urgence. Madrid affirme qu'elle ne peut plus supporter les taux de crédit que lui impose le marché. Mais François Hollande et Angela Merkel veulent également parvenir à adopter des mesures de long terme, que l'on peut résumer ainsi, impact sur la croissance à condition d'un contrôle budgétaire renforcé. Il devrait y avoir des avancées ce soir à Bruxelles. L'Allemagne baisse en partie la garde, mais en partie seulement. À Berlin, Nathalie Versieux.
Pas d'euro-obligation, garantie de l'indépendance de la BCE, le catalogue des lignes rouges de Madame Non s'est singulièrement rétréci au cours des derniers mois. L'an dernier encore, il était hors de question pour le gouvernement allemand d'aligner le moindre centime pour venir au secours de la Grèce, ni sous forme de crédit, ni sous forme de garantie. Et en début d'année encore, Angela Merkel disait non à l'impôt sur les transactions financières qu'elle a finalement accepté. Angela Merkel laisse tomber ses lignes rouges l'une après l'autre, notait récemment le quotidien Süddeutsche Zeitung. Du coup, ses voisins ne savent plus sur quel pied danser. Quel non sera négociable, lequel sera non négociable, ce qui apparaît comme de l'atermoiement est la cible de toutes les critiques en Allemagne et attise la nervosité des partenaires de l'Allemagne qui espèrent faire tomber les résistances allemandes sur les euro-obligations. Mais ce serait ignorer la priorité qu'est pour tout gouvernement allemand la lutte contre l'inflation. L'Allemagne ne reviendra pas jeudi ou vendredi sur son non sur les euro-obligations.
Vous écoutez France Culture, il est 7h08, la suite du journal Renaud Candelier.
Au Mali, les islamistes ont renforcé leur pouvoir dans le nord-est du pays en s'imposant sur la ville de Gao. Il y a eu de violents combats hier qui ont fait une vingtaine de morts. Un groupe islamiste affilié à Al-Qaïda au Maghreb s'est emparé du quartier général de la rébellion Touareg. Se dirige-t-on vers un consensus à propos de la Syrie ? C'est bien ce que tente d'obtenir Kofi Annan, le médiateur des Nations Unies et de la Ligue arabe. Il propose la mise en place d'un gouvernement d'union nationale. La Russie et la Chine y sont favorables et le sujet sera discuté samedi à Genève lors d'une réunion internationale. Sur le terrain, après l'attaque rebelle hier contre une télévision de propagande du régime, l'opposition armée a mené une offensive contre les gardes d'un aéroport militaire situé près de la ville d'Alep dans le nord de la Syrie. Face au combat et depuis le début de la répression, plus de 20 000 Syriens ont passé la frontière libanaise. La plupart d'entre eux vivent dans le nord du pays, dans la vallée de la Beka. Une expérience comme pour tout réfugié traumatisante, tant pour les adultes que pour les enfants. Et notre correspondante Valérie Crova a suivi le soutien psychologique apporté par Médecins sans frontières dans la ville de Tripoli, au nord du Liban. Voici son reportage.
Elles sont une vingtaine de femmes, toutes voilées de noir, à écouter l'exposé de la psychologue.
Vous savez quels sont les symptômes de la dépression ? Allez, dites-moi. Il s'isole, c'est vrai, et quoi d'autre ? Il arrête de manger, il ne dort plus non plus, bien sûr.
La pudeur empêche la plupart de ces femmes de prendre la parole en public. C'est individuellement qu'elles se livrent.
Je suis très fatiguée psychologiquement parlant, je vous assure. Je me dispute tous les jours avec mon mari parce que moi je veux retourner voir mes parents et je n'arrive pas à les voir. Je suis angoissée, c'est comme si quelqu'un m'a enroulé une corde autour du cou. Je n'arrive presque pas à respirer.
Ces réfugiées syriennes viennent de la province de Homs et d'Idlib. Elles ont dû abandonner leur maison pour fuir les combats. Leurs enfants souffrent aussi de l'éloignement.
Bien sûr, je les sens beaucoup plus nerveux. Ils crient toute la journée, ils se disputent tout le temps avec eux. Ils sont irascibles. Et ma petite fille, quand je lui parle, elle me frappe. Vous vous rendez compte? Ils réclament de retourner chez eux, à la maison.
Cette autre femme se met à pleurer. Elle raconte qu'elle a 9 enfants, qu'elle est venue sans sa fille aînée qui s'est mariée il y a 2 mois, qu'elle est toujours à Idlib, qu'elle ne dort pas la nuit, qu'elle en est malade. Pour Lina Issa, la psychologue, la priorité est de sensibiliser ces femmes aux soins de santé mentale qui font souvent défaut dans les services médicaux proposés au Liban.
Comme vous avez vu, tous les signes anxieux qui sont donc suite à plusieurs accumulations de situations stressantes, dangereuses, que ce soit là-bas les bombardements, quand ils ont traversé les frontières, c'est pas évident pour eux. Il y a des gens qui habitent dans des magasins, il y a même des gens qui habitent dans des tentes. La souffrance est grande.
Une souffrance d'autant plus importante que les réfugiés syriens n'ont aucune certitude quant à l'avenir de leur pays qui sombre chaque jour un peu plus dans la guerre civile.
Un reportage à Tripoli au Liban signé Valérie Crova. Et à 7h30, nous vous proposons un autre témoignage, cette fois d'une opposante syrienne passée en Jordanie, où elle prépare un documentaire à partir des images qu'elle a filmées sur la répression en Syrie. On termine ce journal avec 2 informations concernant la France. D'abord, la mort de 2 gendarmes français hier en Guyane dans une opération contre des orpailleurs qui montre toute la difficulté du gouvernement à gérer cet immense département. L'objectif de l'opération était de permettre à terme l'installation d'une société minière légale pour l'extraction d'or. Mais la région de Marie-Poulassa fait 3 fois la taille d'un département de métropole. Et puis, le Conseil de l'Ordre a-t-il cédé à la pression des jeunes médecins ou à celle du gouvernement? En tout cas, il n'est plus question dans les médias d'imposer aux débutantes de s'installer durant 5 ans dans la région de leurs études. Hier, le Conseil de l'Ordre a décidé d'un moratoire jusqu'au mois de septembre. Le temps de ce jeudi 28 juin, tendance orageuse aujourd'hui sur la moitié nord, 26 degrés attendus à Bordeaux, 33 degrés du côté de Lyon.